la capacité à prendre une décision, tout en sachant qu'on ne peut pas savoir, prévoir à l'avance si elle va être juste ou fausse. Et alors, bon, il y en a qui vont faire des tableaux avantages-inconvénients, par exemple, etc. Enfin, tout un tas de choses pour essayer de prendre la décision en essayant de l'optimiser au maximum. Mais au final, parfois, ils perdent trop de temps pour prendre cette décision. Avec ce souci du détail, du perfectionnement, tout le monde déteste se planter, mais j'ai envie de dire, tout le monde se plante un jour ou l'autre. Il n'y a pas de trajectoire linéaire. Donc, il faut être capable d'échouer pour pouvoir réussir.
Bonjour, je suis Guillaume Degvive, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.care, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.care, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast « Les secrets du mental », nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager et s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute.
Bon, bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors, je suis ravi qu'on puisse réaliser un épisode sur toi, sur le monde des échecs, et d'aborder les notions de santé mentale et de mental ensemble. L'échec, c'est une discipline avec un fort imaginaire collectif. On l'imagine comme une bataille des esprits, et on voit deux personnes extrêmement concentrées, face à face, pendant des heures. Il faut tout calculer, tout prédire, maintenir sa concentration, gérer son stress. Et donc, je suis hyper heureux de faire cet épisode avec toi, puisque pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es grand maître international d'échecs depuis 2005. Donc, tu avais 14 ans à l'époque.
C'est ça.
Et dès tes 6 ans et demi, tu étais déjà champion de France junior.
Alors, junior, non, petit poussin.
Ah, petit même. Poussin, oui.
Ouais, junior, c'est moins
junior,
de 20
junior.
Ans. À 6 ans, je pense qu'il l'aurait mal pris.
Non. Ça a été rude.
Donc, petit poussin, c'est moins de 8 ans.
Ouais.
Donc, c'était déjà jeune. Et j'ai été champion de France junior, pour l'anecdote, en 2004, donc à 13 ans. Il le prenait déjà pas très bien.
Ouais, donc j'avais noté donc 3 fois champion de France. Tu as occupé 2 fois la deuxième place mondiale. Notamment, hein, si je prends un titre parmi d'autres, champion du monde de Blitz en 2021.
C'est ça.
Le Blitz, c'est les parties où les coups se font en moins de 10 minutes.
C'est ça, c'est des parties. Alors, plus précisément, c'est 3 minutes plus 2 secondes par coup. Donc, c'est l'équivalent de 5 minutes par joueur. En gros.
5 minutes par joueur.
Voilà.
Alors, j'ai commencé à faire un premier portrait de toi, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui. Donc, je m'appelle Maxime Bachelagrave, j'ai 33 ans. À chaque fois que je le dis, ça ne me rajeunit pas, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, je joue aux échecs depuis que j'ai 5 ans. Et ça a été, évidemment, au début, une passion. C'est devenu également ma vocation, en fait, en quelque sorte. En tant que joueur, c'était une évidence pour moi que j'allais être dans le monde des échecs. Et donc, je suis à plein temps joueur d'échecs, on va dire, depuis que j'ai obtenu ma licence en 2010.
Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui ?
Alors, je considère que la santé mentale, c'est un sujet, alors évidemment, dans le sport, de très haut niveau. Je veux dire, de par les témoignages qu'on peut voir dans les médias, des témoignages aussi des personnes que j'ai pu connaître au fur et à mesure de ma carrière, donc aux échecs également. Mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, en fait, la santé mentale, c'est un des sujets les plus importants dans la société aujourd'hui, parce que le monde évolue très vite, parce qu'il y a les nouvelles technologies, il y a eu aussi des épisodes assez difficiles à vivre, je pense pour pas mal de gens, ce qui est l'épisode Covid, évidemment, confinement. Et donc, au final, la santé mentale, c'est un enjeu de société, tout simplement.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur les débuts de ton parcours. Donc, tu l'as dit, tu as commencé très jeune, les échecs, à 5 ans, très tôt. Tu l'as dit aussi, tu as obtenu des premiers titres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans ce sport ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, bon, c'est évidemment un peu flou, hein, mais j'ai commencé donc, plus ou moins par hasard. C'est-à-dire, j'ai pas, dans ma famille, mes parents jouent pas aux échecs. Mon père connaissait les règles bien et tout. Il savait un peu jouer, mais n'avait jamais vraiment joué en compétition ou en club. Mais disons que mes parents ont repéré que ça pourrait me plaire, que j'étais un peu déjà dans l'univers mat toute la journée, etc. Bon, à 5 ans, ils se disaient, bon, qu'ils fassent autre chose. Donc, ils ont pris un jeu d'échecs à Noël, électronique. Donc, j'ai commencé à jouer. Puis bon, bah, ça m'a tout de suite plu. Il y avait un petit manuel à côté, donc j'ai pu commencer, on va dire, à progresser un peu tout seul. Et après, je suis rentré en club en septembre 96, donc vers 6 ans. Et c'est là que j'ai commencé à suivre les cours, à jouer les compètes. Je m'attendais à rien. Après, très jeune, comme beaucoup, tout le monde aime bien gagner, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'aime bien gagner. J'ai commencé à gagner. Le jeu me plaisait de plus en plus. Donc au fur et à mesure, j'ai confirmé qu'évidemment, j'étais dans les tout meilleurs joueurs français de mon âge, puis dans les meilleurs joueurs du monde de mon âge. Et voilà, de fil en aiguille, ma carrière s'est tracée.
Et dès 7 ans, tu jouais une grande partie du temps plutôt contre des adultes. Est-ce que tu t'es senti en décalage, tu vois, avec les autres enfants ?
Alors, pour moi, ça, c'est une transition qui s'est faite naturellement. C'est-à-dire, parfois, évidemment, toutes les compétitions nationales, les championnats de France jeunes, etc. Puis après, les championnats du monde jeunes, c'était toujours avec les jeunes. Mais après, ça ne me dérangeait absolument pas de jouer contre des joueurs plus âgés. Il n'y avait pas de malaise pour moi. Donc, il y avait déjà d'autres joueurs très jeunes qui étaient devenus très forts. Je pense à Étienne Bacrot, qui était le plus jeune grand maître français, également à 14 ans. Donc, il était déjà également très fort à 8-9 ans. Donc, à partir de là, c'est juste... On était dans une société aussi où il y avait moins d'informations. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait très peu, même Internet. Ouais. Donc, quand il y a l'effet de surprise, en fait, c'est ça qui pouvait créer de la confusion, on va dire. Mais maintenant, n'importe quel... C'est comme au foot, n'importe quel talent de 6 ans et demi, 7 ans est repéré, c'en est même un peu trop.
Et alors, je voudrais te poser quelques questions sur les liens entre santé mentale et échec. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire, toi, quel lien tu fais entre les échecs et le mental ? C'est quoi les dimensions que tu vois ?
Alors, il y a énormément de dimensions, évidemment, mentales. Il faut se dire que pour moi, tout ce qui va être sport, un contre un, il y a une dimension mentale qui est très forte. Alors, je pense à la boxe, par exemple. Je pense également au tennis. Il arrive qu'un joueur rentre dans la tête de l'autre et provoque une immensité de fautes directes, etc. Et un joueur qui dégoupille en plein match. Certains vont le faire plus facilement que d'autres. Certains vont se remettre dans le match plus facilement que d'autres. Mais en tout cas, il y a ça. Et j'ai envie de dire, aux échecs, c'est un peu exacerbé, puisque entre les deux joueurs, il y a juste un échiquier, une table. Et c'est des parties qui peuvent durer... en moyenne, on va dire 4 heures et parfois jusqu'à 6, voire 7 heures. Et donc, après, les joueurs, surtout dans l'élite, on se connaît, donc on se côtoie depuis plusieurs années. Donc, il y a à la fois l'affrontement au moment présent, donc clairement qui va prendre l'ascendant pendant la partie, comment poser problème à l'adversaire, le mettre en difficulté, même si c'est qu'à travers des coups sur un échiquier. Et puis, il y a la vision globale. Donc, c'est vrai que c'est des joueurs, encore une fois, que je vais affronter depuis entre 8, 10, voire 15 ans pour certains. Et donc forcément, il y a un petit côté spécial, puisqu'il y a une certaine sorte d'ascendant qui peut se créer entre certains joueurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il y a une petite histoire. Il y a même une grande histoire dans la petite histoire de la partie qui est en train de se jouer.
Oui, parce qu'on sait que cette personne nous a battu 3 fois, ou alors à l'inverse, elle a battu 3 fois. Et donc,
il y a un peu... comme pour le tennis, on est déjà rentré dans la tête de l'autre et c'est forcément un avantage.
Et je sais que tu as travaillé avec une préparatrice mentale.
Oui, tout à fait. C'est encore le cas d'ailleurs.
Ah ouais, c'était ma question. Est-ce que tu la voyais encore aujourd'hui et comment est-ce que tu travailles avec elle ?
La base de départ, c'était de poser les bases. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font naturellement, j'ai envie de dire. Je ne pense pas qu'on puisse arriver au top niveau dans n'importe quel sport sans avoir... des bases mentales, savoir un certain degré de résilience, sans avoir l'étoffe d'un combattant et de ne pas être débordé par les émotions. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit s'acquérir très naturellement. Alors, sauf talent immense, ça existe, mais même les talents immenses, justement, qui ont pu faire ça, je pense à certains aux échecs, par exemple, Ivanchuk, justement, est reconnu pour avoir eu un talent immense, mais découpillé très souvent quand il perdait une partie. Et ça l'a bloqué, il n'est jamais devenu champion du monde. Mais la plupart du temps, pas de mental, c'est pas tu t'arrêtes à la case avant d'être champion du monde. C'est t'es éjecté du top mondial très vite, parce qu'il faut être capable de passer outre la défaite. Voilà, ça c'est le premier point, quoi, de pouvoir rebondir après une défaite. Si tu ne sais pas faire ça, c'est fini pour toi, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on le voit dans d'autres sports aussi, hein. Mais voilà, après, j'avais identifié peut-être des points de blocage potentiels. Donc, l'idée, c'était de reposer les bases et de conscientiser un peu à la fois mes forces, mes faiblesses, de trouver, on va dire, les bonnes étapes pour justement arriver mieux concentré, à mieux me concentrer en compétition. Par exemple, là, une des problématiques au début de notre relation de travail, c'était comment mieux gérer mon temps pendant les parties, puisqu'il y a évidemment la considération du temps. Il faut jouer ni trop vite, ni trop lentement. Alors moi, j'avais plutôt une tendance à jouer trop vite. Parfois, ça pouvait m'arriver par le passé de jouer plus lentement, mais on va dire que là, c'était vraiment jouer trop vite. Et donc, jouer vite, c'est bien. Forcément, ça apporte une certaine dose d'ascendant sur l'adversaire. Mais voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'évidemment, si je joue vite, mais que derrière, j'oublie un truc essentiel, après, je me fais punir. Donc voilà, ça peut être des... C'est des séances, ça dépend. Hein. Il y a des formats plus courts, il y a des formats plus longs, il y a des formats avec des thématiques bien précises. À chaque fois, c'est pour mieux gérer la compétition, pour mieux gérer l'adversaire et pour trouver les failles chez les adversaires.
Et tu disais donc qu'elle t'avait aidé à bien te concentrer avant de débuter une partie ou une compétition. Est-ce que tu as des conseils, des choses, tu vois, à nous partager ?
Il y a beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai que notamment, alors avant des parties longues notamment, il y a toute une préparation d'avant-match qui se déroule déjà dans la chambre d'hôtel parce qu'il faut réviser beaucoup de possibilités qui peuvent arriver sur l'échiquier en début de partie. Donc ça prend pas mal de temps. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir... j'arrive pas les mains dans les poches à la partie, donc il faut que je sois bien reposé. Déjà, bon, ça c'est une évidence. Hein. Bon, le sommeil, c'est important dans tous les domaines, mais encore plus quand on veut performer dans le sport. Généralement, je me lève, alors je ne vais pas dire tôt, mais je me lève plus tôt que beaucoup des joueurs. C'est-à-dire en compétition, si on a une partie à 15h, il y en a beaucoup qui vont se lever vers 11h, voire midi. Moi, je vais plutôt être 9h, 9h30, aller au petit-déj, me relaxer dans la chambre. On va dire, ça va être ça ma routine de base. Ensuite, prendre un déjeuner mais très léger. Et faire mes révisions, dans le dernier rush avant d'aller à la partie pour être sûr de retenir un maximum de choses. Alors, c'est des choses, ces révisions en question, c'est des choses que j'ai révisées tout au long de ma carrière. Ouais. Mais juste, il y a tellement d'informations que je suis obligé de faire ce shot, on va dire.
Du bachotage, en fait.
Voilà, du bachotage. Mais c'est un shot de connaissances à très court terme. Quoi, voilà. Et puis, il peut y avoir une petite activation physique aussi avant la partie. Alors, très légère, hein, c'est pas se cramer. Ouais. Mais pour se mettre en route, pour que le cerveau ensuite se mette en route et que j'arrive à la partie bien frais, bien prêt. C'est-à-dire, faut pas que, pour moi, la partie, faut que la machine soit déjà mise en route au moment où j'arrive à la table et pas que ça se mette en route pendant les 20-30 premières minutes. Alors, c'est pas forcément les moments décisifs de la partie, mais bon, il suffit d'une fois où ça se passe mal et ça rend une partie très mal engagée, bêtement.
Ouais, d'accord. Et alors, tu sembles être quelqu'un de très calme, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu un sentiment de panique qui te gagne pendant une partie où tu te dis « Oh, je vais perdre » et avoir du mal à maintenir ses émotions?
C'est la base, j'ai envie de dire, de toute façon. Enfin, c'est très, très difficile d'être privé d'émotions pendant une partie. J'ai même envie de dire que ce n'est pas souhaitable. Par exemple, je sais que s'il y a un tournoi où je suis moins impliqué et donc où je vais ressentir moins de stress... Je vais moins bien performer, en fait, parce que le stress est en fait vital pour bien performer dans le sport de haut niveau. Alors, il faut être capable à la fois d'être stressé, mais de passer outre ce stress et ensuite de se relâcher, de se mettre dans sa bulle et d'oublier en fait le stress et de lâcher ses coups. Tel ce qu'on peut voir sur des finales de Grand Chelem où les mecs, après 2 semaines de compétition, ils ont été à fond. Je parle beaucoup du tennis parce que c'est un sport que je trouve très similaire aux échecs. Hein. C'est pas unique.
Ce que tu trouves similaire, c'est le fait qu'il y ait deux personnes qui s'affrontent.
Sur la durée aussi du match.
Ouais.
Et alors, la vraie différence, je trouve, c'est qu'au tennis, le match peut être très mal engagé, mais on peut revenir. Échecs, c'est moins le cas.
Ouais, il y a une dynamique, un engrenage un peu.
Parce qu'en fait, voilà, aux échecs, au tennis, tu peux relâcher ta concentration pendant quelques jeux. Alors, c'est pas forcément souhaitable. Ça peut permettre à l'adversaire de revenir dans le match et de recréer une nouvelle dynamique.
Ouais.
Mais disons que c'est pas fatal en soi. Ouais. Alors qu'aux échecs, une seule erreur peut être complètement fatale.
Ouais,
c'est rarement le cas, mais quand c'est le cas, bon, on s'en souvient, quoi.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un moment où toi, tu as ressenti cette panique, tu vois? Est-ce que tu as une partie où tu t'es dit, tiens, là, T'as senti tes émotions un peu t'envahir et comment est-ce que t'as fait pour les maintenir derrière ?
Alors, il y a eu des situations de grand stress. Hein. Une situation dont je me rappelle très bien, c'était en Coupe du Monde en 2017. Donc, c'était en demi-finale. Ouais. Donc, il faut savoir que quand on gagne la demi-finale, on arrive en finale. Bon, ça va de soi. Ouais. Mais les deux finalistes sont qualifiés pour le tournoi des candidats à 8 joueurs. C'est un tournoi qui va déterminer le challenger du champion du monde, pour le championnat du monde. Donc, du coup, c'est le match le plus important en fait, du tournoi. Donc, il se finit au tie-break. Ce match, donc des parties plus rapides, et même dans les parties plus rapides, on ne se départage pas. Donc c'est contre Levon Aronian, qui est un très grand joueur arménien, qui a été dans le top 10 mondial depuis presque 20 ans maintenant. Et donc on arrive dans ce qu'on appelle la partie Armageddon. Donc les Blancs, donc Levon avait 5 minutes, moi 4, mais il était obligé de gagner.
Ouais.
Et donc c'était... Mais alors là... Il y a le stress, mais il y a aussi un peu l'état second, parce que, donc, encore une fois, c'est les demi-finales. Donc là, un peu comme au tennis, bon, on sort de 3 semaines de compétition. Bon, certaines journées étaient plus faciles que d'autres, mais là, pour le coup, donc, ces tie-breaks ont duré 6 heures. Donc la dernière partie avec l'enjeu, et en sachant que c'est la dernière partie, que là, il n'y a pas de partie suivante. Donc c'est ça passe ou ça casse, soit ouais. Ça a amené un enjeu, une tension. J'ai gaffé un moment parce que j'avais la partie bien en main, mais bon, alors après, avec ce. On va dire, c'est une partie tellement rapide que bon, la bascule se fait très très vite. Donc la bascule s'est faite sur un coup. Et après, j'étais sous pression, j'ai plutôt bien défendu. Et après, ça a fini par casser, on va dire, dans les toutes dernières secondes. Alors, je ne sais pas si j'étais débordé par le stress, les émotions, mais en tout cas, clairement, c'était un gros coup. Même s'il y avait un petit côté autopilote qui s'était déjà enclenché à ce moment-là. Quoi. Mais...
Et alors, il y a différents types de parties, notamment en termes de longueur des coups. Donc, tu as les parties assez rapides, donc, comme le blitz, les parties bullets. Donc là, c'est moins de 3 minutes. Toi, j'ai l'impression que tu es plus fort dans les parties dites assez rapides. Comment est-ce que tu l'expliques, ça ?
Là, c'est vraiment parce que mes qualités naturelles vont s'exprimer plus facilement. Donc déjà, comme je l'ai dit, je joue vite, naturellement. Ouais. Et donc, bon, bah forcément, avec cette vitesse de jeu, si je mets la pression sur l'adversaire autant, mais qu'il a, on va dire, 5... Alors, quand il a 5 minutes pour jouer, c'est plus efficace que quand il a 20 minutes, et c'est plus efficace que quand il a 20 minutes que quand il a 1 heure
ouais,
ou 2 heures. Donc ça, forcément, bon, naturellement, ça se fait, mais aussi... Donc, j'ai une force, on va dire, dans le calcul des variantes. Donc, voilà, tu me donnes une position, je vais calculer, turbiner pour trouver la meilleure solution. Certains joueurs vont plus, on va dire, savoir où placer leurs pièces. Mais j'ai une spécificité dans ce calcul, dans cette force dans le calcul, c'est que ça ne va pas forcément être des calculs hyper profonds. C'est-à-dire et qu'on va faire dans des parties plus lentes, ça veut dire partir d'une position et être capable de calculer précisément ce qui se passe dans les 7, 8, 10 prochains coups. Alors, je peux le faire, évidemment, mais ce n'est pas là où je vais me démarquer par rapport aux autres joueurs. Ça va être plutôt dans des variantes très simples, enfin très simples.
On va dire, tout est relatif.
Voilà, tout est relatif, mais de 2-3 coups. Ouais. Et je vais enchaîner ces calculs-là à très grande vitesse. Donc, jouer plus vite que mes adversaires, poser des pièges... Et des pièges en série. Donc, c'est-à-dire, bon, il va y avoir un premier piège, un deuxième piège. Peut-être que l'adversaire va... C'est pas des manchots, hein. Ils vont naviguer la position. Et puis après, passer au quatrième, cinquième piège, petit relâchement et hop, parce que j'ai mis plus de pression au temps, parce que j'ai pu calculer plus de choses plus vite. Donc voilà, ça, c'est l'aspect vraiment... l'aspect vraiment théorique et échiquien pour lequel voilà, je suis plus confortable sur des parties rapides que mes adversaires.
Et je trouve que tu adresses un des points qui me paraît clé donc, dans ton sport, qui est la concentration. Je trouve ça assez impressionnant quand on vous voit jouer pendant des heures de manière peu immobile, ouais. Face à face. Et tu dis, moi en fait, je vais battre mon adversaire quand il va un peu se relâcher. Comment est-ce que toi tu fais pour maintenir ta concentration pendant des heures, sachant que j'ai vu dans une interview, tu disais, il ne faut pas la relâcher une seconde.
Oui, alors bon, voilà, c'est toujours façon de parler, mais en tout cas, pas la relâcher une seconde, une fois devant l'échiquier, ça c'est sûr.
Ouais.
Alors après, ça va dépendre, hein, c'est-à-dire bon, sur des efforts intenses, donc tels que des blitz, voilà, bon, je vais être capable de maintenir ma concentration, on va dire la dizaine de minutes que prend une partie de blitz, et après, le temps que je joue une autre, bon, y a le temps de récupérer. Mais par contre, pour ce qui va être même des parties rapides, et là je suis plutôt une exception dans le domaine, et dans les parties longues, mais là c'est monnaie courante, je vais avoir tendance à me lever quand c'est pas à moi de jouer. Donc, c'est-à-dire, alors une partie rapide, par exemple, en championnat du monde, c'est 15 minutes plus 10 secondes par coup. Et donc, régulièrement, il peut me rester 7-8 minutes à la pendule. Donc, bon, il y a pas mal de joueurs qui sont là, concentrés à fond. Moi, je joue mon coup, je vais aller voir un peu ce qui se passe partout ailleurs, et puis je vais revenir un peu plus frais devant mon échiquier. Et une fois que c'est à moi de jouer, voilà, je vais pouvoir mettre l'effort. Alors, bon, en partie longue, ça va même plus loin, c'est-à-dire je vais aller me déplacer, je vais aller dans la salle de repos, je regarde. Donc, c'est-à-dire là, je ne suis même pas à proximité de ma table, puisque bon, je n'ai pas besoin de revenir dans la foulée. Bon, quand j'ai 7-8 minutes, bon, si je laisse passer 2 minutes parce que je ne suis pas revenu à la table, bon, ça peut commencer à se payer.
Mais pas en tout ce temps, tu penses à autre chose
Bon, ça dépend. De toute façon, mais ça peut même arriver, quand c'est à moi de jouer, de penser à autre chose, en partie longue notamment. Et auquel cas, j'ai le réflexe parfois de regarder la pendule. Je vois qu'il s'est passé 5 minutes. Bon, je fais un petit check-up dans ma tête. À quoi j'ai réfléchi pendant 5 minutes? Ah ouais, pas grand-chose. Bon, voilà, donc ça, c'est les petites piqûres de réveil. Mon objectif, c'est... Quand je joue mon coup, j'y réfléchis suffisamment et j'ai fait suffisamment attention aux ressources de la position côté adverse. Quoi.
Et dans ta réflexion, c'est des réflexions en un bloc où tu arrives à... Tu réfléchis, je dis n'importe quoi, 15 minutes, tu penses à autre chose 3 minutes et tu réfléchis 15 minutes, comment tu...
Ouais, ça peut arriver, mais après... Généralement, ça va être des concentrations d'un bloc, évidemment, puisque c'est à moi de jouer. Alors, en plus, à chaque fois, quand tu réfléchis à un coup, en fait... Donc, moi, je suis devant l'échiquier, donc je réfléchis à mon coup. Donc, on va dire, j'ai 3 options possibles. Ouais. Chaque option, je vais essayer de l'évaluer en évaluant les réponses adverses. Et chaque réponse adverse va amener d'autres considérations. Donc, ce qui fait qu'il faut être assez méthodique quand même. Faites généralement ce que j'essaye de faire. Donc, c'est je pars sur une possibilité. Je regarde à peu près ce que ça donne. Si j'arrive à aller au bout, tant mieux. Si j'arrive pas à aller au bout, bon, soit je sens qu'il y a un truc et je poursuis. Et si je ne sens pas trop, je vais essayer de m'orienter vers la deuxième option, de voir si je peux avoir un truc plus clair. Voilà. Et si la deuxième option est plus claire, bah parfait. Comme ça, je n'ai pas à regarder la première à nouveau et je peux jouer mon coup. Et donc, voilà, dans l'optique, encore une fois, de gagner du temps à la pendule et de jouer plus vite que l'adversaire, hein, bien sûr. Si, encore une fois, ce n'est pas clair, alors peut-être j'ai une troisième option et bon, pareil, je fais la même chose. Et sinon, je vais revenir petit à petit vers la première, essayer de pousser un peu plus loin. Et si vraiment ce n'est pas possible de prendre une décision, je me fixe une limite de temps à peu près de 20-25 minutes. Normalement, au bout de 20 minutes, je dois avoir joué mon coup. Et si je ne l'ai pas joué, c'est que soit c'est vraiment une décision trop difficile, mais ça veut dire que c'est mauvais signe. Parce que si la décision est trop difficile, souvent, elle va être mauvaise.
D'accord. Et alors, je pense qu'au quotidien, moi le premier, beaucoup de personnes qui nous écoutent ont souvent des difficultés de concentration. Ça, c'est quelque chose de difficile dans la vie quotidienne, au travail. Si toi, tu avais un conseil à nous donner sur maintenir sa motivation. Tu as commencé à nous en donner en disant, bah, quand je vois qu'au bout de 5 minutes, je n'ai pas beaucoup avancé, il y a un peu ce réveil.
Alors là, je considère que c'est même pas la concentration qui est vraiment le point essentiel. Là, c'est vraiment la capacité à prendre une décision. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème dans la vie aussi, d'être capable de prendre des décisions et des décisions qui vont... Alors, bon, qui à l'échelle d'une partie d'échec, au final, ça n'a pas une énorme importance, mais ça peut avoir quand même des répercussions. Et c'est vrai que souvent, alors même moi, ça m'arrive, bon, moins, mais sur des décisions vraiment importantes, de la laisser traîner, de se dire, j'y penserai plus tard, et au final, de laisser le problème en suspens. Et c'est vrai que la capacité à prendre une décision... tout en sachant qu'on ne peut pas savoir prévoir à l'avance si elle va être juste ou fausse. Et alors, bon, il y en a qui vont faire des tableaux, après chacun sa méthode, hein, d'avantages inconvénients, par exemple, etc. Enfin, tout un tas de choses pour essayer de prendre la décision en essayant de l'optimiser au maximum. Mais au final, parfois, ils perdent trop de temps pour prendre cette décision. Avec ce souci du détail, du perfectionnement, tout le monde déteste se planter, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de trajectoire linéaire. Ouais. Donc, il faut être capable d'échouer pour pouvoir réussir.
Et tu as mis aussi en place des techniques de repos, de déconnexion spécifique pour ton cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, donc là, en plus, j'en parlais rapidement, mais bon, j'ai un peu tout mélangé, mais c'était pour les parties longues. Donc, quand je me lève, donc là encore une fois, voilà, je ne suis pas pressé par le temps de revenir à ma table. J'ai du temps à la pendule, il me reste par exemple une heure. Bon, je sais que. Et donc là, je vais dans la salle de repos. Alors bon, parfois, il y a l'écran avec la partie hein, qui est là, mais bon, l'idée, c'est que je me mets sur le canapé par exemple, et là je reste comme ça, limite à faire la petite sieste.
Les bras écartés, tranquille.
Ouais. Et là vraiment, l'idée c'est justement, bah, je viens de prendre une décision, donc je viens de jouer mon coup, j'ai quand même regardé pas mal de possibilités adverses. Je vois que mon adversaire réfléchit, donc je sais pas forcément quelle décision il va prendre. On va dire qu'il en a trois possibles, mais il en a peut-être une quatrième à laquelle j'ai pas pensé. Et donc pour moi, ça fait pas vraiment sens de consacrer mes capacités de réflexion à ce moment-là, quand mon adversaire a, par exemple, trois possibilités qui me semblent à peu près identiques, et donc d'utiliser trois fois mes ressources décisionnelles et mes ressources de concentration pour ensuite revenir à la partie et ne plus avoir de jus au moment où c'est à moi de jouer. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je choisis ce moment-là, par exemple, pour déconnecter. Et ensuite, mon adversaire a joué. Alors, ouais, peut-être que je suis un peu moins bien préparé à sa réponse, que je sais, enfin, que j'aurais pu déjà, on va dire, décider de ce que j'allais faire. Mais bon, j'ai du temps pour prendre cette décision et je ne me suis pas pollué l'esprit avec toutes ces possibilités. Alors après, la partie reste dans un coin de la tête. Hein, quand c'est à l'adversaire de jouer, c'est pas toujours une totale déconnexion. Parfois, bon, je sais, enfin, je me rappelle au moins de ce que j'ai déjà calculé quand c'était à moi de jouer. Et puis, bon, il peut arriver aussi que là, je m'aperçoive qu'il a une nouvelle possibilité que j'avais peut-être sous-estimée. Et donc là, parfois, ça m'arrive justement à ce moment-là de revenir à mon échiquier et de me replonger en réflexion pour justement savoir comment réagir face à cette possibilité que j'avais complètement sous-estimé ou même complètement oublié.
Mais il y a une notion de gestion de l'effort, c'est-à-dire très concentré, un peu moins concentré, ça peut être là, mais c'est plus en arrière-plan dans ta tête. Voilà.
Ça, c'est surtout sur les parties longues. Alors évidemment, ouais, parce que sur des parties de 5 minutes, bon, bah, là, oui, l'effort, il est intense de A à Z.
Mais c'est aussi moins long, donc c'est pour ça que voilà, c'est
bien
tenable.
Sûr. Bien sûr.
Et y a un peu, j'ai l'impression cette notion de respiration, quoi.
Oui, mais je sais qu'il y a des joueurs qui étaient extrêmement fiers. Alors, pas à top niveau d'ailleurs, parce que à top niveau, on a compris que c'était pas possible, mais de rester devant l'échiquier pendant 6 heures, quoi.
Ouais.
Et en fait, bon, bah, ces gens, ils ont pas compris grand chose. Alors, c'est peut-être leur façon de gérer l'événement, mais je vois pas dans quel monde, à moins d'avoir un pouvoir surhumain, tu peux rester à une table pendant 6 heures et rester concentré. Ça, pour moi, ça n'existe pas.
Ouais, c'est vraiment la preuve que pour performer.
D'ailleurs, toutes les études scientifiques le montrent. Hein. Je pense qu'on ne peut pas rester concentré sur un sujet plus de. Alors, je ne sais pas le chiffre exact, si c'est une demi-heure ou une heure, mais à mon avis, c'est dans ces eaux-là.
Et c'est vraiment la preuve par les faits et la recherche là, que pour performer, il doit y avoir une notion d'effort, mais aussi de repos. Parce qu'au bout d'un moment, tu n'y arrives plus, tu travailles dans le vide, en fait.
Le cerveau consomme énormément d'énergie, hein, c'est normal. Enfin, dès qu'il y a un effort mental. Ça m'arrive de terminer des tournois complètement épuisé, hein, forcément. Alors, c'est pas parce que j'ai couru 3 marathons dans la semaine, non, mais d'ailleurs, un seul suffirait à m'épuiser. Mais... Et je sais aussi que beaucoup de joueurs qui rentrent dans le milieu des échecs sous-estiment cet effort mental, jouent leur premier tournoi et finissent complètement carbonisés.
Ouais. Ouais.
Et même des bons sportifs, quoi. Parce que bah, c'est un effort différent et c'est un effort qui se joue sur la durée, une partie longue où tu es en tête-à-tête avec toi-même, voilà, il y a aussi un peu de nerveux, en fait. C'est pas que mental, c'est aussi nerveux, la nervosité de la partie.
Et toi, justement, quand il y a un peu de nervosité, de stress comme ça, quand tu vois que tu as fait une erreur, pour maintenir ton sang-froid, tu as un mantra, tu te mets à respirer, tu raisonnes, c'est la réflexion qui va t'aider à sortir de ça.
Alors, bien sûr qu'il y a eu tout un travail de respiration qui a été fait, notamment avec ma coach mentale, parce que c'est pas ma spécialité de base, pour le coup. Qu'est-ce que j'allais dire ?
On était sur donc la nervosité, le stress. Comment tu...
Ouais, bah quand c'est pas récupérable, bon bah là, ok, faut passer Quand c'est pas récupérable, en fait, l'enjeu c'est pas de garder ses émotions devant l'échiquier, c'est de réussir à passer outre ce qui vient de se passer pour la prochaine partie. Donc déjà faire le reset pour la prochaine partie. Ouais. Donc ça peut être par exemple rester à contempler le désastre pour faire le deuil de la partie, par exemple.
Ouais, vivre ton émotion finalement.
Voilà.
Pour l'évacuer.
Voilà. Donc si c'est récupérable, par contre, donc l'enjeu c'est vraiment justement de pas laisser transparaître la détresse en fait, et de continuer à se battre, de de trouver des ressources. Voilà, bon, je suis plutôt pas mauvais à ce petit jeu, justement, notamment sur des parties plus rapides. Et donc, de passer outre de ce qui vient de se passer et de se concentrer vraiment sur le futur. Alors, parfois, après, si c'est des parties plus longues, on va dire qu'il y a un peu de temps aussi pour justement réguler ce qui vient de se passer. Sur des parties plus rapides, bon, bah, parfois, les fautes peuvent s'enchaîner. Mais après, évidemment, l'adversaire peut être entraîné dans ce rythme. Donc, après, encore une fois, il faut prendre en considération comment je vis ce moment, mais aussi comment mon adversaire le vit. Et si mon adversaire se plante également, c'est un sujet. Donc, comment lui va réagir, comment lui va me poser des problèmes et comment moi, je dois faire en sorte de justement pas tomber dans ce rythme, de jouer trop vite. Parce que généralement, un des réflexes, c'est de jouer plus vite, justement pour entraîner la partie dans un rythme plus décadent où ça peut faire plus d'erreurs et peut-être de laisser aussi l'impression à l'adversaire qu'on a lâché l'affaire en fait en jouant plus vite. Mais non, en fait, c'est vraiment pour
Du bluff aussi.
Voilà.
Et alors en 2023, tu as gagné l'AI Cup qui est un tournoi en ligne. Tu fais face au numéro 1 mondial Magnus Carlsen et tu perds le premier duel. Mais tu gagnes le reste et donc tu arrives à aller chercher ta place en finale. Et là, tu te retrouves à nouveau contre Carlsen. Le double challenge que tu as, c'est que c'est le numéro 1 mondial et que comme il n'a pas perdu jusqu'ici, tu dois le battre à deux reprises. C'est ce que tu fais lors de deux parties très impressionnantes. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu bats le numéro 1 mondial comme ça ?
Alors déjà, on va revenir donc sur le premier match, donc celui que j'ai perdu, parce que j'avais joué quand même à un niveau très élevé. D'ailleurs, j'avais perdu la troisième, parce que c'était des matchs donc en quatre parties. J'avais perdu la troisième partie, puis j'étais revenu dans la quatrième partie donc pour perdre la partie décisive. Et je me disais, j'ai quand même joué pas loin de mes capacités maximum. Il y avait une ou deux erreurs, mais vraiment, le niveau était très, très élevé. Et donc, pour moi, alors si j'arrivais à revenir à gagner mes matchs suivants et donc revenir en finale, donc ce qui s'est produit... Je me disais, bon, mon enjeu, ça va être de jouer aussi bien, mais un autre enjeu, ça va être que lui ait une baisse de régime. Ouais. Et donc, c'est quand même ce qui s'est produit dans le match, donc dans cette série de deux matchs. Donc, le premier match, déjà, la première partie m'a mis en confiance parce que, bon, il était un tout petit peu mieux. Il a cherché, après, c'est des parties rapides, hein, donc encore une fois, les fautes arrivent plus facilement. Il a cherché un peu trop à causer des soucis. Et puis ça s'est retourné contre lui et il n'a pas pu tenir face au nouveau virage en fait, qu'avait pris cette partie. Donc, sachant qu'en plus, là, on était sur des fins de partie où les joueurs avaient 2-3 secondes par coup, donc ça va très très vite. Et voilà, et donc après, j'ai pu maîtriser ce premier match. Mais après, encore une fois, je n'ai pas mieux joué que le premier match que j'avais perdu. Mais lui avait montré plus de faiblesses. C'est aussi ce qui s'est produit ensuite dans le deuxième match. Donc, qui s'est encore une fois joué à la première partie. Alors, pas uniquement, parce qu'après, il a fallu que je tienne la deuxième partie, mais la première partie où là, il était... voilà, c'est une de ses forces. Hein. Enfin, il a énormément de force, mais il passe outre un résultat défavorable et il se remet dans le bain très, très facilement. Et donc là, il a sorti une assez grosse préparation. Mais j'étais prêt pour le combat. Et bon, alors, ma position était délicate par moment, mais j'ai mieux navigué les complications. Et puis après, encore une fois, dans le money time, comme on appelle, bon, ça s'est mieux passé pour moi. J'ai pu tenir la deuxième, même si là, c'était très chaotique. Mais justement, au dernier moment, il s'est planté. Donc voilà, il n'était pas à son meilleur niveau. Bon, après, le champion du monde, le meilleur joueur depuis 15 ans, même quand il n'est pas à son meilleur niveau, c'est pas mal, quoi. Mais ça reste un challenge. Et voilà, et là, c'est vrai qu'il y avait aussi... un caractère d'épuisement à la fin du match pour moi, en tout cas.
Mais t'as pas ressenti de la joie avant tout, t'as ressenti plus de la fatigue, t'es un peu allé au bout de toi-même.
Ouais, c'est ça, mais souvent, hein, de toute façon. Alors la joie existe, hein, mais c'est plus du soulagement, notamment, je veux dire, sur des matchs qui durent, sur un match de 5-6 heures, je trouve que moi, ce que je ressens, je me trompe peut-être, c'est plus du soulagement de l'effort accompli que de la joie en elle-même.
Et auquel cas, ça veut dire que si t'as perdu, t'es quand même soulagé d'avoir terminé la partie ou c'est quand même le sentiment de défaite qui prend dessus?
C'est amer. Mais après, parfois, faut admettre, c'est aussi, faut être fort, quoi. C'est-à-dire, faut comprendre que C'est là aussi hein, la difficulté justement de rebondir après une défaite, c'est admettre que ton adversaire t'a surpassé avec les mêmes armes. Quoi. Il avait une meilleure arme, il avait une meilleure épée.
C'est contrairement à beaucoup de sports, il n'y a pas les conditions météo,
c'est
une forme physique, mais tu t'es blessé.
Après, tu es responsable de ta forme physique. Hein, voilà. Si j'ai fait nuit blanche la veille et que j'ai fait 10 shots dans la soirée, bon, c'est mon problème. D'ailleurs, généralement, ce n'est pas le cas, même tout le temps.
Et que ça fait, c'est un combat très loyal.
C'est un combat très loyal et donc, parfois, il faut être capable d'admettre que on s'est planté aujourd'hui et passer outre. Mon adversaire a été plus fort.
C'est vrai que c'est très dur parce que vous ne pouvez pas vous trouver d'excuses. C'est le combat a été loyal, a priori.
Ah oui, non, il n'y a pas d'excuses. Et c'est peut-être aussi ça, parce que je pense que dans tous les sports, en fait, pour arriver à un tel niveau, il faut un ego de base. Il faut être capable de croire qu'on est le meilleur, même si on ne l'est pas forcément dans les faits, mais en tout cas, qu'on est en capacité d'être le numéro un. Et qu'on va tout donner pour l'être. Et ces défaites peuvent blesser dans l'ego.
Ouais.
Et c'est peut-être ça le blocage pour certains sportifs. Quoi.
Et justement, parce que c'était la question que je me posais. Tu vois, toi, tu arrives, t'es extrêmement jeune, t'as 6 ans, t'as 7 ans, tu bats des adultes. T'es grand maître international à 14 ans. Il y a des gens qui travaillent pendant des années, ils ne vont pas y arriver. Donc, j'imagine que dans une certaine manière, tu grandis, tu te construis avec une image de... Il y a quelque chose de génial, toi. T'es en dehors du lot.
Ouais.
T'étais spécial. Et après, t'as la défaite qui revient.
Oui, je suis en dehors du lot, mais en compagnie de tous les joueurs, en fait, ils m'accompagnent dans le top mondial, quoi.
Ouais. Et justement, donc, je me demande quand t'as une défaite, tu vois, dans quelle mesure ça peut.
C'est de l'apprentissage.
Un peu l'image que t'as de toi.
Oui, mais c'est de l'apprentissage naturel, parce que de toute façon, aux échecs, tu peux pas arriver à être grand maître tout de suite. Donc, tu vas passer par ton lot de défaites.
Ouais. Tu veux dire, la défaite a fait partie de ton chemin, et en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur. Il n'y a pas de parcours linéaire.
Il n'y a pas de parcours linéaire. Mais après, bien sûr, certains joueurs n'ont jamais appris à bien encaisser une défaite. Quoi. Ça existe aussi. Mais bon, encore une fois, à top niveau, c'est extrêmement rare. Et je pense dans tous les sports.
Ouais.
Je veux dire, au tennis. Certains joueurs, on va dire, vont même se protéger de la défaite, c'est-à-dire vont au moins extérioriser le fait qu'ils s'en foutent, quoi.
Ouais.
Voilà. Et donc, ça peut être un mécanisme, mais bon, c'est pas en abuser, puisqu'après, on perd à la fois la motivation, mais aussi même la raison d'être, en fait, d'être sportif de très haut niveau, si on s'en fout de perdre. En tout cas, c'est ce qu'on exprime. Après, ce qu'on exprime peut se refléter ensuite sur soi-même et sur sa motivation.
Ok, on se rapproche de la fin de cet épisode. Je voulais te proposer de faire un petit jeu de questions courtes, réponses courtes, où je commence des phrases et je te laisse les terminer. Ça te va ou pas?
Ça me va.
Alors, quand j'ai du mal à me lever le matin,
je vais pas me forcer. Hein.
Donc tu restes au lit?
Ah, ça m'arrive.
Le moment où j'ai le plus douté, c'est...
C'est les périodes prolongées d'échecs, en fait, j'ai envie de dire. Donc c'est les périodes vraiment... Quand c'est 3 mois, 6 mois où les résultats viennent pas, où je sens que j'évolue pas à mon niveau et où je me dis est-ce que ça va bien revenir quoi. Bon alors après ça encore une fois ça fait écho à l'idée parfois que le parcours n'est pas toujours linéaire, mais voilà il y a des moments qui sont plus difficiles à encaisser que d'autres.
Quand je ne me sens pas bien, les mots qui me réconfortent sont
bouffe.
Que ça passe par la nourriture.
Voilà.
Pour moi, un mental de champion, c'est ?
C'est la capacité d'être extrêmement objectif, déjà. Extrêmement objectif sur ce qu'on est, sur ce qu'on est capable de faire au moment T, sur aussi ce qu'on a mis en place. Donc, est-ce que j'ai assez travaillé ? Est-ce que j'arrive prêt à la compétition ? Donc, objectivité et puis maîtrise de soi. Et évidemment, l'âme du combattant en arrivant devant l'échiquier, quoi, la volonté de prouver que t'es le meilleur.
Et pour faire écho au titre de ce podcast, si j'avais un secret du mental à partager, ce serait ?
Apprendre à échouer pour réussir. Vraiment.
Hein, que c'est la défaite pour...
Être capable de prendre ce risque, quoi, de se dire « j'y vais ». Quoi. Et tant pis si ça... Si ça passe pas, alors c'est pas y aller, c'est pas se jeter d'une falaise quoi.
Ouais.
Voilà,
ouais,
c'est vraiment
le risque calculé.
Ouais.
Et est-ce que tu aurais une recommandation de podcast, de livre, de film, voire de musique à nous partager?
Alors, de films, c'est vrai qu'il y a... Alors, il y a un film qui m'a marqué, par exemple, parce que je ne suis pas très film de base, mais il y a un film qui m'a marqué, justement, par la faculté d'encaissement du protagoniste, c'était Whiplash.
Ok.
Voilà. Où le mec, il en prenait plein la gueule par son... Alors, c'est pas vraiment coach, mais par son professeur de musique, etc. Et il était là, il n'a rien lâché. Et... Voilà, tu sens aussi le... C'est cette caractéristique-là du film qui m'avait vraiment plu.
Ouais,
parce qu'en plus, je ne suis pas du tout jazz, donc... Mais ce film-là m'avait beaucoup plu.
Alors, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui et tu te dis, tiens, c'est dommage qu'on ne l'ait pas abordé?
Oh, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Hein. C'est pas mon métier, moi, de trouver les questions. Moi, c'est d'avoir les réponses.
Et alors, la dernière question. Qui souhaiterais-tu voir intervenir dans ce podcast?
Ouais, bah alors, ça va pas être une grande surprise, hein, parce que bon, on a beaucoup parlé tennis.
Ouais.
Je pense notamment à des joueurs qui sont allés vraiment au bout de leur capacité. Vraiment. En fait, pas forcément. Disons qu'il y a deux profils qui m'intéresseraient. Donc, il y a Gilles Simon.
Ouais.
Qui est vraiment bon, connu pour avoir été au bout de ses capacités et vraiment très, extrêmement malin sur un terrain. Donc, comment il analysait justement ses matchs, comment il faisait pour faire déjouer les adversaires, etc. Ouais. Ou alors un Gaël Monfils, vraiment showman, mais qui en envoie. Et puis parfois, on se dit qu'il n'a pas forcément exploité toutes ses capacités. Bon, après, il y a aussi le paramètre blessure hein, dans le sport. Alors, ça,
oui,
aux échecs,
clair.
On a cet avantage-là. Il n'y a pas de, y a pas de blessure, enfin, extrêmement peu. Donc, on sait que voilà, la réussite ne dépend que de moi, quoi, aux échecs. Donc, c'est vrai que voilà, le point de vue d'un Gaël aussi, ça peut être intéressant.
Génial. Bah, merci beaucoup, Maxime.
Bah, merci à toi.
Et à bientôt.
Yes.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Moka.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.